Salut, c'est Melvin. Bienvenue sur On Papers. Ici, on parle de sport, de handball et de féminin aussi. Une de mes aspirations pour ce podcast, c'est de laisser une trace aux futures générations de joueuses en m'entretenant avec des joueuses professionnelles ou amateurs de handball. Et j'ai aussi envie de traiter, en fait, en profondeur et avec plein de sincérité, les problématiques qui ont à voir avec le féminin et le fait d'être sportif de haut niveau, sans tomber dans les fantasmes, en fait. Et aujourd'hui, je reçois Pauletta Foppa. C'est la plus jeune joueuse à avoir été sélectionnée dans l'équipe de France et à 17 ans, elle était déjà championne d'Europe. Certains d'entre vous m'ont demandé si c'est pas allé un peu trop vite que d'être championne d'Europe à 17 ans. Alors je sais pas si c'est allé trop vite. En tout cas, Pauletta, elle, c'est vraiment un poisson dans l'eau. Elle a l'air de s'éclater et j'ai pas l'impression que c'est trop tôt pour elle. Dans cet épisode, elle nous raconte un peu comment elle jongle justement entre ses études, les compétitions internationales en décembre et puis la Ligue des Champions avec son club et le championnat français. Et ce qui en ressort pour moi, c'est plein d'ambition, beaucoup d'honnêteté avec soi et son travail, et puis surtout beaucoup d'amour pour le jeu et la performance. Et ça fait plaisir à entendre. Alors j'espère que cet entretien vous plaira et je vous souhaite une très belle écoute. Alors toi, Pauletta, t'es joueuse professionnelle au Brest-Bretagne Handball depuis 3 ans maintenant. Aujourd'hui, t'as que 20 ans. Et du coup, est-ce que tu peux revenir sur tes débuts et nous dire un petit peu où est-ce que quand tu as commencé à jouer au handball en fait?
Alors, au début, j'étais pas du tout dans le hand. J'ai un frère avec qui on a un an d'écart. Mm-hmm. Et il faisait du foot et du basket. Donc, je l'ai suivi. J'ai fait okay. Du foot et du basket. Okay. J'ai très vite arrêté le foot parce que j'étais la seule fille et puis ça me saoulait d'être dans les buts et tout. Donc, quand on est petit, c'était un peu trop ça. Ouais. Donc, j'ai vite arrêté. J'ai fait du basket pendant un petit moment. J'avais ma meilleure amie aussi, enfin au début, il y a du hand à l'école.
Ouais.
Enfin, du hand. On a passé à 10 à l'école.
Ouais.
Donc, j'ai commencé là-dessus. Ça me plaisait plutôt bien. Puis après, plus on évoluait, et puis il y avait une section hand dans le collège où j'étais censée aller. Et en fait, on organisait des tournois toute la journée sur une pelouse synthétique. Et en gros, c'était plusieurs écoles qui jouaient les unes contre les autres. Et puis moi, j'arrivais, je tirais fort et puis ça rentrait dans le but et j'étais contente, quoi. Et tout le monde me dit, mais franchement, tu devrais tester et tout, nana. Donc je me suis dit, bon, allez, ils m'ont donné un petit papier comme quoi tu peux, de telle heure à telle heure, en gros, c'est un essai et tu peux y aller. Je dis à ma mère, bon, on m'a donné ça et tout. Après, elle me dira, j'en ai fait quand j'étais petite et tout. Mais bon, voilà, on a fait histoire 2, quoi.
Ouais,
donc,
ouais.
Donc, j'ai testé et ma meilleure amie, elle a testé en même temps que moi. On est allé à plusieurs comme ça. Au début, ça me plaisait pas tant que ça. Enfin, j'avais peut-être plus un penchant pour le basket que pour le hand. Mais vu que toutes mes copines étaient au hand, bah, j'allais tout le temps au hand. Mm-hmm. Donc, j'ai continué là-dedans jusqu'au moment où le basket et le hand, bah, ça colle plus ensemble.
Ouais.
Parce que quand on est petit, les maths, ils sont à 14h, entre 14h et 16h. Sauf qu'à un moment, j'arrivais à jongler parce que le basket, c'était à 14h et le hand, c'était à 16h. Et à un moment, des fois, c'était la même heure. Mm-hmm. Bah, tu dois faire un choix et tout. Ouais, je me suis dit, bon, il y a mes copines au hand, donc je vais rester au hand et tout. Et j'ai continué avec le hand, j'ai continué. J'étais dans le club à USM Montargis,
okay.
Dans le 45. J'ai fait tous mes débuts là-bas, j'ai commencé en moins de 12. J'ai fait un an parce qu'il y avait tellement de monde en moins de 12 qu'on était obligé de nous surclasser en moins de 14.
Okay.
Et franchement, c'est là que j'ai découvert que le handball, ça me plaisait vraiment parce que en moins de 12, c'est vraiment de la passe à 10 et tu dois finir vers le but. Mmh. Et en fait, en moins de 14, c'est là qu'on construit des postes, qu'on construit en gros un projet, entre guillemets, et c'est ça qui m'a vraiment plu. Et ouais. C'est vrai qu'en moins de 14, bah, j'ai beaucoup d'amis qui ont arrêté parce que bah, elles, ça ne leur plaisait plus. Et moi, c'est là que ça m'a vraiment plu, donc j'ai continué, mais il y avait toujours quelques amis. Hein.
Ouais, ouais.
Donc voilà, puis après.
Et du coup, à cette époque-là, est-ce que tu étais déjà pivot à ce moment-là ou tu jouais un peu
non,
partout?
Pas du tout. Pas du tout, j'étais sur la base arrière.
Ok, ça marche.
Base arrière, à gauche, droite, demi-centre, j'ai un peu tout fait, mais c'est vrai que je préférais beaucoup à gauche.
Ok.
Et pendant longtemps, j'étais à gauche, même quand je suis rentrée au pôle, j'étais arrière.
Mm-hmm. Ok, d'accord. Donc, t'es rentrée au pôle, parce que là, du coup, t'étais en moins de 14, donc t'avais 13, 14 ans.
Ouais, j'avais 13 ans. Ouais. Quand je suis rentrée au pôle, j'avais 13 ans.
Ok. Ok, donc t'es rentrée, ouais.
Après, je me rappelle plus trop des âges précisément. Ouais, quand je suis rentrée en pôle, j'avais 13 ans. Je jouais avec les moins de 17 régionales. Mais je m'entraînais avec la N1. C'était un peu bizarre. Mais en fait, très vite, je me suis très vite entraînée avec des gens plus âgés que moi, en fait. Déjà, je pense que vu que je m'entraînais au pôle ma première année, les entraînements, ils collaient pas avec. Parce que je pouvais m'entraîner qu'une fois par semaine avec mon club. Et c'était le vendredi. Sauf que le vendredi, y a pas d'entraînement avec les moins de 17. Donc je m'entraînais avec la N1. Et en fait, avec la N1, je progressais deux fois plus vite. Donc j'ai vite intégré la N1 à 14 ans et demi. Ouais, 14 ans, 14 ans et demi. Puis après, j'ai continué. Puis après, c'est redescendu en N2. Donc j'étais en N2 pendant les 1 an. On est monté en N1. Et là, j'étais au pôle. Donc au début, j'étais arrière. Et en fait, je suis passée pivot parce que on avait Cassandra Bekono qui avait eu ses problèmes de santé. Et en gros, ils étaient censés faire les interpôles. Sauf qu'il restait qu'une seule pivot. Et en gros, ils m'ont dit, bon, pour l'état, on va t'essayer. J'ai dit, ouais, ok, enfin, sans plus, quoi. Et là, j'ai commencé, et puis j'ai rattrapé des ballons un peu bizarres et tout. Tout le monde disait, mais comment tu fais et tout? Je dis, je sais pas, on m'envoie le ballon, faut le réceptionner, quoi. Pour moi, c'était logique, enfin, voilà. Donc ça a commencé comme ça. Et puis, en fait, ils me donnaient des petites billes, et puis j'apprenais super vite et tout. Donc, j'ai fait mes premières interpôles quand je suis arrivée au pôle. Et c'est comme ça que j'ai démarré pivot arrière. En fait, j'alternais toujours un peu des deux. Et puis après, plus le temps y passait, et plus on oubliait arrière et vite basculer dans le coin pivot. Ouais, ça me plaisait plutôt bien parce que je prenais de plus en plus mes marques et moi, ça me plaisait bien.
Est-ce que à ce moment-là, parce que moi, c'est vrai que je me souviens quand j'étais arrière et qu'on m'a passé à l'aile, du coup, j'étais un peu, t'sais, un peu triste parce que techniquement, c'était pas la même chose. Mais toi, tu dis que limite, t'étais un peu, limite, c'était ton poste parce que t'arrives là et t'y arrives directement, alors que c'est quand même un endroit où t'es un peu dans la machine à laver toute l'année. Les balles sont pas souvent simples à attraper, donc toi, finalement, t'as été tout de suite hyper à l'aise.
J'ai été à l'aise parce que je m'entendais bien avec les filles de la base arrière. En fait, il y a des pivots, on va dire, qui font plus du travail dans l'ombre et on les voit pas trop. Ça veut dire que moi, j'avais tellement une bonne relation avec la base arrière que j'avais des ballons un peu partout. Donc, pour moi, je marquais limite autant de buts que quand j'étais pivot que quand j'étais arrière. Donc, d'un côté, c'est un truc que j'aime bien aussi marquer des buts. Donc, ça veut dire que j'avais pas trop le temps de, entre guillemets, m'apitoyer sur mon sort parce que j'aimais ça, entre guillemets. Et non, après, en plus, au début, quand t'es petite, pivot, tu cours pas trop, donc ça m'arrangeait aussi, on va dire. Pour moi, pivot, j'avais juste à me placer, hop, 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 et à un moment, il fallait peut-être sortir ton bras et tu devais aller marquer. Bon, avec le temps,
Ça a
c'est
changé,
vraiment pas ça, hein. Et ouais, ça a vraiment changé. Mais avant, pivot, t'avais besoin de rien faire, entre guillemets, quoi. Et puis, physiquement, j'ai toujours été en avance par rapport aux filles de ma génération, donc ça veut dire que j'avais pas besoin d'en faire des caisses pour être. Tenir un bloc ou faire des choses. Donc, c'est vrai que ma morphologie m'a aidé aussi à que ça soit plus simple pivot quand j'ai basculé pivot.
Ça marche. Et à partir du moment où, du coup, tu as choisi le handball par rapport au basket, est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà en tête des objectifs en fait pour ton avenir? Est-ce que tu as commencé à avoir des rêves dans le handball?
Pas du tout. Mais mes rêves dans le handball, ils sont venus super tard. Vraiment. Quand j'étais au pôle, je rêvais pas d'être handballeuse professionnelle ou autre, hein. Enfin, pas du tout. Pour moi, le hand, ça restait vraiment un plaisir. J'ai rencontré des amis là-bas, c'était une super expérience humaine. Pour moi, c'était ça. C'était pas, oui, équipe de France. Non, 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 pas du tout. Moi, en plus, je suis quelqu'un, je vis vraiment au jour le jour. Alors, c'était vraiment pas. On a commencé à me parler de contrat professionnel si se souhaitait en première terminale. Pour moi, je pensais même pas tout ça. Même quand j'ai commencé le hand, j'ai commencé à vraiment m'y intéresser, mais je me projetais pas. Non, je me projetais pas au-delà.
Donc
Ouais.
toi, alors tu me disais qu'on t'a parlé de contrat professionnel vers la première terminale, alors que d'habitude à ce moment-là, on propose des centres de formation aux gens quand même. Donc comment ça s'est passé du coup dans la
Ouais.
suite? Comment ça s'est passé quand t'es sorti du pôle du coup?
Alors, moi personnellement, en fait, j'ai toujours, étant jeune, j'ai toujours été avec des gens plus âgés que moi. Mais ça veut dire que j'ai tout le temps vite progressé. Et ça, franchement, ça aide énormément. Donc ça veut dire que je voulais pas retourner, parce qu'en fait, il y a des centres de formation qui s'entraînent beaucoup avec les filles de centres de formation et avec la N1. Il y en a elles s'entraînent beaucoup avec la D1. Enfin, ça dépend des centres de formation. C'est vraiment pas... Pour moi, toutes les formations ne sont pas la même. Et en tant que pivot, moi, je trouvais que c'était intéressant d'être directement dans le noyau professionnel. Pour moi, c'était différent d'acquérir des compétences en étant au centre de formation. Pour moi, je préférais être directement avec des professionnels, quitte à être dans un petit club, mais d'apprendre vraiment vite. Mm-hmm. Moi, j'aime bien apprendre vite. C'est un truc, je suis vraiment quelqu'un d'impatient, donc j'aime bien apprendre vite. Et c'est vrai que moi, je voulais quelque chose dans le direct, dans le vif du sujet, quoi. Mm-hmm. Et c'est vrai que mon coach de pôle, à ce moment-là, il m'a dit, c'est possible, en fait. Il y a tel club et tel club qui sont intéressés. Tu vas visiter, tu fais ton choix. Si c'est pas ça que tu veux, tu peux toujours rentrer dans un centre de formation, c'est pas un souci. Mais pense pas que ça va être facile. Pour moi, j'entendais juste contrat pro, pour moi, tout allait être facile. voilà, on va pas se mentir. Hein. Sort du pôle, on parle de contrat pro, pour moi, pas de tol, hein,
ouais, honnêtement. Bah oui.
Donc voilà, donc, j'ai choisi Brest en juillet 2018. Mm-hmm. Oui, c'est ça.
Ouais.
Et voilà que là, la vie professionnelle a commencé. Alors, c'est vraiment, vraiment pas comme le pôle. Ça, je tiens à dire aux personnes, c'est vraiment, vraiment pas comme le pôle. Moi, ça m'a fait très, 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 très bizarre parce que déjà, je suis arrivée en décalé par rapport à tout le monde parce qu'il y avait le championnat du monde avec l'équipe de France jeune.
Ouais.
Donc, ça veut dire que moi, je suis arrivée début août ou fin août même, je sais même plus. Mm-hmm. Mais l'équipe, quoi qu'il arrive, elles avaient déjà fait toute leur prépa.
C'est ça, les prépas commencent en début juillet, parfois même à la mi-juin pour exact. Certains clubs. Ouais.
Exactement. Moi, j'ai rien fait de tout ça. Je suis arrivée, entre guillemets, pour moi, les équipes se créent vraiment à la prépa. Ouais. Tu vois qu'il y a un petit noyau qui commence à se créer. Et moi, j'étais pas dedans. C'était mon premier club, loin de ma famille. Parce qu'avant, j'étais à Orléans, mais ma mère, elle était à une heure de chez moi. Donc, je l'appelais, elle venait, on passait nos après-midi ensemble, elle rentrait chez elle.
Ouais.
Elle est à 7 heures de chez moi, c'est pas pareil. Clairement, j'avais 17 ans. C'était mon premier appart solo, parce qu'avant, j'étais tout le temps en coloc. J'arrive dans une équipe que je ne connais pas, avec des joueuses étrangères, des joueuses françaises. Mais en fait, tout le monde fait sa vie et puis voilà quoi.
Ouais.
On est là pour l'entraînement, on s'entraîne et puis tout le monde rentre chez soi quoi.
Mm-hmm.
Sauf que toi, tu viens d'arriver, tu connais personne. Premier entraînement, tout le monde te parle dans tes oreilles, tu sais même plus qui écouter parce qu'en plus, nous pivots, on dépend énormément des joueuses.
Ouais.
Donc ça veut dire qu'on a besoin d'avoir un feeling avec les gens. Mais comment tu vas avoir un feeling en arrivant? Sachant que tu n'as pas fait de prépa, tu n'as rien fait et tu ne connais même pas les joueuses d'avant.
Mmh. Mmh.
Donc là, pour moi, c'était la panique à bord. Je me suis dit, on m'a toujours mis sur un piédestal, entre guillemets. Et là, je redescends bien bas, je dois tout créer tout moi-même. Enfin, ça a vraiment été un peu bizarre.
Ouais, mais c'est...
Pour moi, c'était un peu difficile. Mmh. Après, Dieu merci, j'ai eu mes cours quand même. Donc ça veut dire que je pouvais un peu m'échapper.
Ouais.
Avec mes cours, donc c'était plutôt cool. D'accord. Mais c'est vrai que ma première année, ça n'a pas été simple.
Ouais. Et du coup, tous tes cours, tu les faisais à distance ou tu avais trouvé une formation à Brest?
Ouais. Non, il n'y a pas ma formation à Brest, donc je la faisais à distance.
Ok, d'accord. Donc tu n'avais pas besoin de... Enfin, ça ne te prenait pas un temps non. de déplacement en plus des entraînements, quoi.
Mais j'aurais aimé, limite.
Ouais.
Moi, j'aurais aimé, comme ça m'aurait peut-être fait des amis en dehors.
Ouais, c'est vrai.
Du secteur de hand. Moi, j'aurais aimé, mais bon, il n'y a pas à Brest. Donc...
Ouais, c'est ça. Donc, du coup, à 17 ans, tu étais pro. Et à partir de là, donc, tu faisais tous les déplacements, tous les matchs, avec tout le monde, tout le temps.
Ouais.
OK.
Bah, au début, les premiers matchs, je ne les ai pas faits parce que je n'étais pas encore dans le projet de jeu. Donc, je ne connaissais pas tous les enclenchements.
OK.
Parce qu'il faut savoir qu'il faut retenir tous les enclenchements il y a des années et des années.
C'est vrai.
Donc non, au début, j'ai pas joué peut-être les trois, quatre premiers matchs. Et puis après, je suis rentrée dans le bain. Donc tous les déplacements, les matchs de Ligue des Champions, tout ça. Ouais, je les ai tous faits. Quand tu joues pas, même si tu as fait des déplacements, tu rentres, tu vas t'entraîner. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs comme ça, mais j'ai fait les choses assez tôt, on va dire.
Ouais, c'est vrai, parce que c'est vrai que c'est très rare, en fait, de sortir de Pôle Espoir et d'être directement professionnel, parce que en général, on attend de toi que tu fasses une transition, que tu sois au centre de formation. Mais c'est vrai que moi, par exemple, dans mon cas, et il y avait des filles de mon équipe aussi qui étaient dans ce cas-là, c'est qu'en fait, nous, on était pareil. On était dans un centre de formation, mais finalement, on était comme toi, on jouait tout le temps. Et c'est vrai que moi, c'est une question que je me suis toujours posée. Je me suis dit, mais dans ce cas, pourquoi ne pas être pro? Parce que finalement, tu vis exactement la même vie qu'elle, tu travailles, tu joues autant qu'elle. Mais alors, bien sûr, je comprends que c'est une charge salariale qui est différente pour le club. Et que c'est considéré comme des années voilà, vraiment de formation. Mais cette caractéristique-là que tu as, qui est assez quand même atypique, hein, c'est quand même assez rare, c'est quelque chose qui peut ressembler à la situation de certaines filles qui finalement sont là avec l'équipe numéro 1, jouent vraiment. Ça peut, je trouve que c'est pas bête finalement d'oser demander un contrat professionnel là où finalement pour toi le centre de formation n'est pas forcément utile, tu vois.
Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Moi, c'est vrai que quand j'ai eu des filles comme Déborah et toi qui jouaient ici Paris et qui jouaient autant et qui étaient que centre de formation, moi je trouvais ça un peu du foutage de gueule. Mm-hmm. Moi c'est pour ça que j'ai demandé directement un contrat. J'ai pas eu l'initiative moi-même de demander un contrat pro, mais mon coach de pôle a eu l'initiative de demander au club des contrats pro et qui ont accepté. Après, je pense qu'ils ont un peu vendu le sujet non plus, parce que je pense que les gens me connaissaient pas non plus énormément.
Ouais.
Mais par exemple, oui, moi je voyais des personnes, elles faisaient même plus que les pros, elles s'entraînaient beaucoup plus que les pros, parce que mine de rien, je pense que vous êtes pas mal de matchs et pas mal de déplacements, mais derrière, par exemple, si vous devez jouer avec la N1, vous devez être là.
Mm-hmm.
Nous, je sais qu'il y a des filles à Fleury, par exemple, quand elles s'entraînaient avec les pros et à jouer avec les pros, s'il y avait un match avec la N1 à domicile, elles devaient jouer avec la N1 à domicile.
Ouais, ouais, ouais.
Donc moi, c'est des trucs comme ça, je disais, mais mon Dieu, même si je sais que c'est la formation, tout ça, je trouvais ça un peu abusé.
Ouais, ouais, c'est vrai que dans la formation, il y a des moments...
C'est sûr que c'est au niveau du salaire, c'est sûr que c'est au niveau du salaire et que ça prend un coup au club. C'est sûr, mais je trouvais quand même ça abusé.
Ouais, ouais, c'est vrai, parce que c'est vrai que dans la... si tu te rends compte, c'est même moi, je m'en suis rendu compte, à partir du moment où je suis devenue pro, en fait, je faisais beaucoup moins de choses que quand j'étais au centre de formation. Parce qu'au centre de formation, il y a aussi le fait des études qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'en fait, c'est dans la charte en fait, qui est imposée par la Fédération française de handball, où il faut qu'il y ait un suivi socio-professionnel et donc que les filles continuent à suivre une formation. Donc toi, t'es là, tu jongles entre ta formation, les matchs, etc. Et c'est pas du tout de la plainte, hein, parce que moi, j'ai vraiment passé au centre de formation les meilleures années de ma vie. Mais c'est vraiment des moments où... Parce qu'une fois que je suis devenue pro, et que scolairement, t'as plus de, on va dire, de contraintes fédérales, même si moi, j'ai continué après, tu peux tout d'un coup te retrouver à faire beaucoup moins au quotidien. Et ça, je l'ai vu avec des filles à côté de moi qui, finalement, comme elles ont arrêté leur licence, enfin, après leur licence, elles n'ont plus rien fait, tu te rends compte que t'as une vie beaucoup plus... Enfin, t'as beaucoup plus de temps pour toi, contrairement à tes années de CF juste avant. Mais bon, après, en même temps, t'as plus d'énergie, t'es dans la fleur de l'âge et tout. Donc bon, ça peut s'expliquer aussi.
Oui, oui, ça.
Et du coup, toi, maintenant, depuis que t'es pro... Enfin, non, pas depuis que t'es pro, vu que t'as toujours été pro. Est-ce que t'as... est-ce que tu continues ta formation ou est-ce que t'es pro vraiment à temps plein et tu ne fais que ça?
Ma formation, tu parles des cours?
Ouais, des cours.
Ouais, ouais, non, je continue. C'est ma dernière année, là.
Ok.
C'est ma dernière année. Et ça se passe plutôt bien. Après, le club, ils sont plutôt cool parce que en entraînement, enfin, on va pas dire qu'on choisit les entraînements, mais un peu, enfin, on peut choisir un peu les horaires. Par exemple, si on dit, là, ça nous arrange, on peut faire entraînement à 16h. On va faire entraînement à 16h. Enfin,
okay.
Ils sont assez ouverts là-dessus. Et puis, par exemple, en muscu, par exemple, le matin, par exemple, j'ai cours en visio, j'ai pas de cours visio le matin, à part qu'on n'a pas entraînement, mais... Par exemple, on va dire on a peut-être muscu à 9h30 ou à 10h30. Je peux demander d'être à 9h30, comme ça je finis plus tôt. Puis après, je peux travailler toute l'après-midi avant d'enchaîner encore l'entraînement l'après-midi.
Okay.
Donc, ils sont vachement ouverts là-dessus. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a permis que je puisse continuer mes 3 années facilement.
Ok, chouette. Et est-ce que tu as dû du coup étaler ou tu suis un rythme d'étudiant ou d'étudiante lambda, on va dire?
Non, j'ai pas étalé, mais comment dire? En fait, c'est super bien adapté pour les sportifs de haut niveau.
Okay.
Donc voilà, je suis en décalé par rapport à tout le monde, ça c'est sûr.
Ouais.
Par exemple, les personnes, ils vont finir leur année au mois de mars, mais moi je vais finir peut-être au mois de juillet,
mais bon, c'est normal.
C'est juste que je décale par rapport à la période internationale de décembre, mais sinon, non, c'est cool.
Okay.
C'est vraiment bien fait, c'est pas fort.
D'accord, et du coup, c'est quoi comme formation, juste pour, si ça peut intéresser quelqu'un?
C'est un DUT communication avec le CNED.
Ok. Ça marche, super. Et donc là, tu as fait un petit peu la transition, tu as parlé un peu de la période internationale de décembre. Du coup, on va parler du moment où tu es arrivée en équipe de France pour la première fois. Je me souviens que ça a été il me semble, hein, quand j'avais suivi un peu l'actualité, c'était un peu un court-circuitage parce que tu étais encore en France junior, je crois. Et...
Même pas,
jeune. Oh là là. Ok. Ok, en France jeune. Ouais, ça a un peu court-circuité le système. Mais du coup, comme tu l'as dit depuis le début de l'épisode, en fait, t'aimes apprendre vite. Et on le voit finalement dans ton jeu, t'es assez prématuré, je trouve. Et du coup, comment ça s'est passé, ça? C'est ton arrivée en équipe de France. Comment tu l'as vécu, toi? Et est-ce que ça... Enfin, tu disais que t'avais eu tes rêves tard dans le handball. Du coup, c'était à quel moment? Est-ce que c'était à ce moment-là? Est-ce que c'était après ça?
Alors déjà, mes rêves dans le handball, ils ont commencé à réellement venir. En terminale, c'est là que j'ai su que je voulais vraiment être professionnelle, de faire de ça mon métier, tout ça, tout ça.
Ouais.
Équipe de France A, pas du tout, parce que pour moi, j'ai pas encore fini d'apprendre. Déjà, pour moi, ça se passait entre guillemets pas mal, mais j'étais encore en plein apprentissage du monde professionnel avec Brest. On mettait l'équipe de France. Moi, je comprenais rien. On venait de finir l'équipe de France jeune. Pour moi, j'allais passer avec Eric Baradin en France junior. Et puis voilà, quoi. Fin. Et un jour, je reçois une convocation équipe de France A. Je dis, mais... Je regarde, je vois mon nom, il est dans la liste. Je dis, putain, mais ils se sont trompés. C'est pas possible. Je comprenais pas trop. Et après, je vois, je me fais identifier sur Instagram et tout ça. Je dis, mais en fait, c'est vraiment vrai et tout. Donc là, j'appelle ma mère et tout. Et... Ma mère, dans toute sa splendeur, elle commence à crier, elle saute de joie et tout. Et je pense qu'elle était même plus contente que moi parce que moi, je ne comprenais pas réellement. Je me dis, mais déjà, à Brest, ça se passe. Je ne comprends pas ce qui se passe, ça va super vite. Et là, je me dis que je suis avec les meilleures Françaises pendant un stage, mais je ne vais rien comprendre. Ça va être... Oh. Et là, je commence à un peu... Je ne suis pas du genre à stresser, mais là, j'appréhendais énormément. Mmh. Et en fait, au final, ça s'est super bien passé parce que personne n'attendait quelque chose de moi. On me demandait juste de montrer ce que je faisais déjà avant.
Ouais.
Et ça s'est plutôt bien passé. Mais pour moi, je le répète, pour moi, ce n'était pas du tout pour faire l'Euro au mois de décembre, sachant que mon premier stage, je l'ai fait au mois de novembre. Septembre, je crois.
Ouais.
Et je me suis dit... En fait, ce n'est même pas venu dans mon cerveau.
Mmh.
Franchement... on va pas prendre une petite de 17 ans au mois de septembre pour faire un euro en décembre. Enfin, je pensais que c'était pour l'avenir et puis voilà, pour vu que je voulais progresser entre guillemets vite, ils étaient là pour m'accompagner, tout ça, tout ça.
Mm-hmm.
Mais en fait, pas du tout.
Ouais.
Pas du tout. J'ai vu que avant qu'on parte à Nancy, il vient me voir, il me dit oui, t'es dans le collectif et tout. J'attends de ce que tu fasses, de ce que tu sais faire en fait. Mm-hmm. Pas plus, pas moins. Et puis, puis voilà. Et puis tu regardes, tu progresses. Et puis c'est quand on est dans le bain qu'on progresse mieux. Et puis j'ai la même philosophie des choses. Donc c'était plutôt cool.
Ouais.
Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
Ok. Tout simplement, ça marche. Et comment ça s'est passé, du coup, ta première compétition internationale? Comment tu te sentais, toi, d'un point de vue émotionnel? Est-ce que tu étais juste dans « Ok, bah, je viens, je profite », parce que finalement, tu es quand même partie avec une médaille et la plus belle. Du coup, voilà, comment tu l'as vécu d'un point de vue émotionnel et quels souvenirs tu en gardes vraiment de cette compétition-là?
Pour moi, c'était un pur kiff. Au début, j'appréhendais parce que je me suis dit, je connaissais pas bien les filles. C'était déjà un beau noyau et puis moi, je venais un peu comme un cheveu comme ça. Au début, j'appréhendais énormément, mais ça s'est super bien passé. Siraba, elle était vachement là pour moi pendant cette compète et d'avoir des conseils, en gros, de la capitaine, c'était cool. Parce qu'elle a vraiment un rôle de maman et c'est vraiment rassurant, entre guillemets. Je pense que ça m'a vraiment aidé que ça soit en France.
Ouais.
Parce que ma famille, ils étaient tout le temps là à tous les matchs.
Ah, trop bien.
Donc, ça veut dire que le match, franchement, j'appréhendais pas parce que je suis pas quelqu'un qui stresse. Mais c'est vrai que je me suis dit... Mais si ça se passe mal, si ça... Après, je me suis dit, pose pas de questions. Déjà, si t'es là, c'est un bonus.
Ouais.
Tu fais une bonne compétition, c'est encore mieux. T'en fais pas une, t'es là pour apprendre. Te mets pas la pression, c'est bon, on s'en fout. Et puis après, je voyais mes frères arriver. Enfin, mon frère Et ses amis, que je considère comme mes frères, ils venaient, je les voyais arriver avec des pancartes et tout. Franchement, c'était énorme. Ils étaient là, tous les déplacements, tous les matchs et tout. On entendait que tout le monde venait me voir et me dire « Mais c'est qui eux ?» Je dis « Bah ouais, c'est mes frères et tout. » Ils me disent « Mais ils font du bruit, on adore !» Et non, franchement, c'était cool parce que tout le monde était dans l'ambiance et puis il y avait une super dynamique. Et en fait, il y avait tellement de choses à apprendre que même si tu jouais pas, t'avais l'impression d'avoir joué ou d'avoir appris tellement de choses.
Ouais.
Comment préparer bien ses matchs, comment bien préparer, regarder et observer les adversaires. Il y a tellement d'infos que je me dis, mais je suis ressortie avec le cerveau, mais rempli d'informations.
Mm-hmm.
Vraiment,
ouais.
Il y a tellement de choses. Nous, quand on est en jeune, franchement, les matchs, on les aborde, allez, on montre 4-5 vidéos et puis voilà, basta, quoi. Même nous, individuellement, on ne fait pas tant que ça de vidéos. Enfin, il y a plein de trucs qu'on ne nous montre pas ou c'est pas pareil ou... Il y a tellement une différence que moi, ça m'a scotché.
Ouais, ouais.
Même les réunions avec les préparateurs mentaux et tout. Enfin,
mm-hmm.
Moi, je connaissais pas tout ça.
Mm-hmm.
Et c'est vrai que c'est là que j'ai tout appris. C'était waouh. Franchement.
Ouais, du coup, ça a continué. C'était dans la continuité, en fait, de ta volonté de faire des formations à l'accéléré. Et du coup,
ouais,
de
tout découvrir. Wow. Non, mais là, c'était plus vite que ce que je voulais, ça.
Ouais.
Ça, c'était... On m'a dit, tu veux qu'on accélère le truc, on va accélérer. Et là... Ah.
Ouais, et donc...
Non, mais ça, c'est vraiment... C'était...
Parce que là, tu as parlé donc, de plusieurs choses qui sont intéressantes, dont on ne parle pas forcément souvent. Mais c'est vrai que vous avez en équipe de France un préparateur physique, Richard... physique mentale qui est un préparateur mental, donc Richard, qui est formidable, je crois vraiment, j'entends que du bien de lui. Tu parles de vidéo aussi, il y a David Burguin qui a la vidéo, et bon, moi je l'ai eu en France junior, en France jeune, et j'en garde un souvenir, mais merveilleux, le mec c'est un génie, et c'est les gens qui travaillent dans l'ombre et qui font que notre travail est précis après sur le terrain, quoi. Donc, toi, c'est quoi l'axe que tu bosses le plus pour préparer tes matchs, justement? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi?
Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment la vidéo.
Ouais.
Je suis pas trop dans l'aspect mental parce que je sais pas trop comment me positionner dans le hand et j'ai pas trop envie de m'embrouiller le cerveau non plus. Mais c'est vraiment que je suis dans l'aspect vidéo. Comment les joueuses elles défendent, il y en a, elles sont beaucoup dans la latéralité, combien bien poser son bloc, parce que tu sais qu'à ce moment-là, quand elle va une fois, deux fois, trois fois, la troisième fois, bah, bam, tu poses ton bloc, t'es sûr qu'elle pourra pas revenir, et il y aura un 3 contre 2 à l'opposé. Enfin, il y a beaucoup de trucs comme ça, les 1 contre 1 favoris, parce qu'il y a plein de joueuses, on dit, mais elles ont des 1 contre 1 de ouf, mais si tu regardes à 85%, elle fait toujours le même, c'est le même 1 contre 1. Enfin, il y a plein de trucs que si tu regardes pas la vidéo, et c'est vraiment l'outil magique qu'on a, franchement des fois ça se joue à des détails près, mais c'est énorme.
Mm-hmm.
C'est énorme.
Ouais.
Et moi, ouais, je dirais pas trop de vidéos non plus, parce que des fois t'es un peu trop codifié non aussi, mais un peu de vidéos et tout, franchement moi je sais que ça m'aide.
Ouais. Et des fois on dit que les pivots c'est les demi-centres de l'intérieur. Qu'est-ce que t'en penses toi de ça? Est-ce que tu as l'impression de préparer ton match avec autant de précision? C'est-à-dire que, bien sûr, c'est pas toi qui va lancer la tactique, mais finalement, là, tu viens de me parler d'un truc. Tu me dis, voilà, elle va glisser 1, 2, 3 fois, et là, je vais la bloquer, il y aura un 3 contre 2 là-bas. Finalement, c'est un peu le travail du demi-centre que d'être capable d'envoyer la balle au bon endroit, au bon moment. Enfin, tu dois avoir une maîtrise, en fait, du plan de jeu. Enfin, comme tout le monde, hein, mais je veux dire, c'est un rôle capital, en fait.
Bah, moi, pour moi, en fait, quand il y a une très bonne équipe, c'est quand le pivot et la demi-centre s'assemblent, entre guillemets.
Mm-hmm.
Parce que le travail du pivot va un peu dépendre de ce que la demi-centre va faire, mais en même temps, des fois, la demi-centre t'attend une chose du pivot. Et je ne sais pas comment dire, mais par exemple, nous, pivot, on voit un peu comme ça, on va dire. Et... les demi-centres, elles voient en profondeur. Enfin, nous, on voit un peu en profondeur et elles voient plus avec du recul.
Ouais.
Et nous, par exemple, des fois, on voit plutôt plus vite les infériorités quand on pose des blocs que la demi-centre, des fois. Donc, c'est vrai, des fois, on t'appelle, on fait un truc comme ça. Ou à la prochaine, si elle fait le même enclenchement, on peut lui dire.
Ouais.
Donc, oui, peut-être on a un rôle de demi-centre à l'intérieur. J'avais jamais entendu ça, par
contre. Moi, je l'ai entendu de personnes, enfin, d'entraîneurs surtout. Mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis dans le sens où. Voilà, vous voyez la même chose, mais pas du même point de vue. Et donc, forcément, vous Exactement. Complétez... parce que vous êtes dans le même axe, presque, en général. Et,
ouais, c'est ça.
OK, hyper intéressant. Et donc, ensuite, pour revenir sur tes autres compétitions, parce que tu as commencé avec l'Euro en France, puis le Mondial au Japon. Compétition ouais, un peu plus difficile. Comment tu l'as vécu, ça, cette compétition aussi?
Cette compétition, ça a été un peu une claque, parce qu'on va dire, j'ai toujours été très vite partout, entre guillemets. Et au mondial, j'ai pas été dans les 16 et j'ai été dans les 20, donc dans les tribunes. Donc j'ai pas fait la première semaine de préparation. Enfin, il y avait une semaine où elles étaient au Japon pour faire une semaine de préparation. J'ai pas été retenue pour le faire, donc je suis restée sur Paris pour faire de la préparation physique. Et je les ai rejoints une semaine plus tard au Japon pour aller à Kumamoto. Donc ça veut dire que j'ai commencé le mondial dans les tribunes. Donc ça veut dire que là encore, c'est une autre position. C'est un peu bizarre parce que tu fais partie de l'équipe, mais t'es pas dans la compétition. Donc des fois, t'as pas le même ressenti des joueuses. Et en plus, moi, je suis arrivée, j'avais un décalage horaire énorme. Donc ça veut dire que toutes les filles, quand elles étaient au taquet, moi, j'avais sommeil. Horrible. horrible. C'est un peu bizarre parce que des fois, trouver les mots justes pour dire aux filles alors que t'as pas forcément joué, c'est un peu bizarre. Des fois, quand c'est des réunions préparatoires mentales, on te demande, oui, toi, ton ressenti. Mais en fait, j'ai pas de ressenti. Enfin, je suis dans les tribunes, j'ai que mon point de vue. Voilà, après on dit oui, qu'est-ce que t'attends du match? Je ne peux pas attendre quelque chose de moi-même du match alors que je ne suis pas dedans. Enfin,
c'est ouais, c'est compliqué.
Un peu bizarre. Mais après, c'est bien parce que des fois, on peut voir dans les tribunes des choses où les filles ne voient pas parce qu'elles sont dans le match et des fois, elles sont peut-être dans un trou noir à un moment d'un match et nous, peut-être à la mi-temps, on peut venir les aiguiller et tout. Et puis, je pense que c'est ce qu'avec les filles, quand on était sur le côté, on a essayé de faire. Après, on fait partie du collectif et je pense qu'on a toutes le même but commun, c'est de repartir avec une médaille. Donc après, au début, on s'habitue un peu sur notre sort et après on dit, mais t'as déjà la chance d'être dans les 20. Il y en a, je pense que même être dans les tribunes et partir au Japon, elles vont prendre direct leur billet et elles vont venir. Donc non, franchement, après, c'est sûr, ça fait chier parce que t'es pas dans l'équipe, mais enfin, t'es pas dans les 16, mais c'est une expérience et... Moi, ça m'a montré qu'en fait, rien n'est acquis. En fait, c'est pas parce que t'as du talent ou que voilà que t'es forcément dans les 16 et que t'es forcément là. En fait, faut toujours travailler. Et en fait, en France, en plus, il y a une difficulté, c'est que tout le monde est bonne. À chaque poste, il y a tellement de joueuses talentueuses que t'as juste à rester sur tes acquis. Et puis hop, il y en a une qui arrive. Et puis salut.
Salut. Enfin,
c'est comme ça. Donc ouais. Donc c'est comme ça, et puis après tu te dis, tu travailles, et puis le travail ça finit toujours par payer, moi je suis convaincue que ça, donc, donc voilà.
Ok, ça marche. Et donc dans la continuité de ça, dans l'actualité récente, vous avez disputé du coup un championnat d'Europe cette fois, donc championnat d'Europe 2020 au Danemark, et toujours la même question, comment ça s'est passé pour toi cette compétition?
Cette compétition-là s'est plutôt bien passée. On va dire que c'est la première compétition où je peux réellement m'exprimer et montrer mes qualités, surtout en équipe de France tout court. Et je me suis vachement fait plaisir sur les matchs. Franchement, j'ai vraiment pris plaisir. Il y avait une super dynamique. Je pense que la petite ou grosse gifle qu'on s'est pris à Kumamoto nous a permis de rebondir. Et tout le monde était relâché, tout le monde... Bon, c'est vrai qu'on jouait un peu avec le frein à main au début parce qu'on avait un peu peur de perdre, c'est vrai. Mais après, on s'est vraiment lâché, on a montré ce qu'on savait faire et tout. Et puis, moi, personnellement, c'était un pur kiff. Moi, j'ai adoré, franchement, j'ai vraiment aimé. Et j'ai l'impression que c'est un peu les deux compétitions que j'ai vécu qui m'ont permis de m'exprimer avec autant d'aisance, je pense, sur cette compétition-là.
Ouais, ça marche. Et la couleur de la médaille, du coup, toi, ça t'a affecté comment?
Sur le moment, c'est sûr qu'on pense à toutes les choses négatives qu'on a fait pendant le match, les tirs ratés, les buts pris, des rencontres imperdues, enfin... À plein de petits trucs comme ça, et c'est sûr que franchement, de perdre de deux buts, c'est rien. Franchement, c'est rien. Et je me dis, en plus, à un moment, on était devant. Enfin, il y a plein de trucs auxquels je pensais, même la nuit, je pensais, je me dis, mais putain, on aurait pu faire ça comme ça, ça, si, ça. Mais là, au lieu de tirer la mi-hauteur, mais je suis débile, j'aurais dû la lober ou tirer entre ses jambes. Il y a plein de trucs, on pense à tellement de trucs, mais il y a tellement eu d'échecs sur ce genre de match que. c'est pas possible de gagner avec autant d'échecs. Donc voilà. Après, je me dis, franchement, on a passé de se faire éliminer au premier tour au mondial. Et là, on décroche quand même la deuxième médaille, enfin, la deuxième place. C'est quand même waouh, en peu de temps. Il faut savoir qu'on a eu que deux stages pour tout organiser tout ensemble. L'équipe, elle est quand même nouvelle. Enfin, c'est pas rien. Je me dis, quand même, la Norvège, c'est une équipe où le 7, il bouge pas. Le 7, il bouge pas. Nous, franchement, il y a des nouvelles, il y a tout ça, faut tout mettre en place. On a eu que deux stages. Enfin, franchement, je trouve que c'est pas mal. Certes, on n'était pas au pic de ce qu'on aurait pu faire, mais rien n'est perdu et on est encore en apprentissage. Donc, moi, je m'en fais pas. Après, oui, certes, on est déçu parce que ça se joue à rien, mais je pense qu'on va prendre une belle revanche. J'espère du moins.
Ouais. Bon, en tout cas, on voit bien que tu es animé surtout par la soif d'apprendre et de jouer et d'être performante. Et ça, en tout cas, ça fait plaisir à entendre vraiment. Et j'aimerais revenir aussi un petit peu sur le calendrier que tu as avec ton club, parce que après du coup l'Euro, il y a eu petite pause avec Noël, etc. Mais vous êtes très vite reparti pour les compétitions. Laurent Bezeau, ton coach, disait en début de saison qu'à Brest, cette année, il a la meilleure équipe qu'il a jamais entraînée. Est-ce que toi, tu joues dans la meilleure équipe dans laquelle tu n'as jamais joué en club? Et est-ce que tu ressens la même chose? Et quelles sont, toi, tes ambitions avec le club pour cette saison, si, en tout cas, elle peut se terminer?
Laurent a dit... Je ne savais même pas qu'il avait dit ça.
Ouais.
Après, notre équipe, en fait, elle est... Je ne sais pas comment dire, mais en fait, à tous les postes, il y a un problème, quoi. À tous les postes, tout le monde peut poser des problèmes. Il y a plein de styles différents et c'est ça qui est super cool parce que moi je suis plus une pivot dans le bloc. Poplazic, elle est plus une pivot dans le glissement. Anna, c'est plus des tirs de loin. Monika Kopiniska, c'est plus des tirs des 1 contre 1. Enfin, tout ce. En fait, il y a tellement de différences dans notre équipe que je trouve que c'est ça qui est waouh. Et tout le monde a les mêmes objectifs. On essaye du moins de perdre le moins de matchs possible pour essayer de décrocher quand même un titre parce que le club a quand même des attentes et on a tout aussi envie d'avoir un titre dans notre palmarès et c'est sûr que c'est toujours gratifiant. Après, si c'est la meilleure équipe dans laquelle j'ai joué, je dirais oui parce que on va dire que maintenant j'ai un rôle dans cette équipe et ça me plaît. Les joueuses me font de plus en plus confiance. Je suis plus trop la petite jeune à qui on doit dire comment faire, mais je suis plutôt la petite jeune. Non, on va dire que je suis plutôt la jeune. Plutôt la jeune qui essaye de prendre de l'expérience en faisant le moins de fautes possible. Donc voilà, tout le monde a son objectif. Après, c'est vrai que là, de revenir un peu d'une compétition avec un mois de janvier qui est super dense, c'est pas simple. On est fatigué aussi, faut pas se mentir, on n'est pas des machines. On est fatigué, mais après, on fait ce qu'on aime, donc ça nous aide à passer aussi au-dessus. Mais c'est vrai que de repartir d'une compétition à un mois de janvier assez dense, c'est pas simple.
Ouais.
C'est vraiment pas simple, mais... C'est une belle année.
Très bien. Très bien, très bien. Maintenant, Pauletta, j'ai des questions de la part des auditeurs et des auditrices. D'abord, comment est-ce que tu gères les études et le sport? On en a un petit peu parlé. Je ne sais pas si tu peux compléter.
Alors, comment je gère ça? Alors, en gros, j'ai un calendrier avec tous mes cours que j'ai dans la semaine, donc je les ai tous en avance sur une plateforme,
ouais.
Et je choisis dans l'ordre dans lequel je veux faire. Le temps, j'ai peut-être un délai pour chaque devoir, que peut-être des personnes n'ont pas, j'ai peut-être en plus des délais. En compétition, je décale mon mois. Par exemple, le mois de décembre, je ne fais rien, parce qu'en compétition, c'est totalement impossible. J'ai déjà essayé, on se noie.
Ouais.
Donc moi je décale tout sur le mois de janvier. Donc moi mon mois de janvier il est vraiment vraiment pas mal.
Elle est très dense.
Ouais, très dense partout, vraiment dense.
Ouais.
Par exemple, si j'ai pas entraînement le matin, je mets des cours peut-être de 9h jusqu'à midi. Je prends ma pause de midi jusqu'à 13h. Des fois si j'ai besoin de dormir, je dors de 13h jusqu'à 13h30 et puis après je travaille de 14h jusqu'à 16h. Et puis après, je retourne en cours. Si j'ai besoin de faire mes devoirs, si je ne suis pas fatiguée, je le fais le soir. Sinon, bah, je le refais le lendemain ou avant le délai.
Ok.
J'aime bien faire à la limite, ça me booste un peu.
Mmh.
Voilà. Mais c'est un peu comme ça, quoi. Il faut gérer soi-même son calendrier.
Alors, quels sont les inconvénients que tu as rencontrés, enfin les difficultés que tu as rencontrées dans ton accession au très haut niveau en étant aussi jeune?
Moi, je dirais, c'était plutôt la distance avec mes proches.
Ok.
Avant, j'étais à Fleury et mes parents habitaient à 1h, 1h15. Et j'ai des frères et sœurs avec qui je suis très proche, donc je les voyais quand j'avais envie de les voir, je les voyais. Bah, là, c'est pas du tout le cas. Là, quand ça se passe, on va pas se mentir, on a des semaines ou des mois où c'est difficile dans le handball et tu peux pas extérioriser entre guillemets parce que t'as que ça entre guillemets. Donc quand t'es un peu dans ta merde entre guillemets, tu restes un peu dedans et tu t'en sors toute seule. Et des fois, à 17 ans, tu sais pas trop faire ça. Et je pense que ça a été ça un peu ma difficulté. Après, c'est vrai que j'ai des amis qui sont cool parce qu'ils sont venus passer des semaines chez moi et ça fait du bien. Mais ouais, c'est vrai que des fois, on a des coups de mou et je pense que c'est un peu ça qui est difficile dans le haut niveau et surtout quand on joue pas.
Ouais.
C'est ça, en fait. Des fois, on joue pas, on est dans un coup, enfin, on est dans un mauvais mood et
Ouais.
ça arrange rien.
C'est vrai. Qu'est-ce que ta jeunesse apporte selon toi dans cette équipe de France? Et bravo. La
Bah
personne qui dit
après,
ça te dit bravo aussi en même
ah,
temps.
merci. Merci. Moi, je dirais, j'ai un profil pivot, mais un profil assez atypique parce que j'ai un peu de vision de jeu et j'aime bien jouer pour les autres et aussi pour moi. Donc, je dirais un peu mon culot, entre guillemets.
Ok.
D'oser faire ce que les pivots n'osent pas.
Ça marche. Une autre question que je trouve assez drôle, enfin je sais pas. Championne d'Europe à 17 ans, est-ce que c'est pas un peu, est-ce que c'est pas aller trop vite?
Aller trop vite, rien ne va trop vite pour moi. Non, je rigole.
Bah ouais, non mais en vrai on
Non,
l'a vu.
mais Non, moi je dirais c'est un plus. Je dirais pas que je suis allé trop vite. Après, je me dis, moi, si c'est censé arriver, c'est que c'était censé arriver. Mais non, pour moi, je pense pas que c'est trop vite.
Ok.
Après, oui, c'est sûr, faut pas se dire que j'ai gagné ça et je suis déjà arrivé. C'est sûr que
Oui,
là.
c'est sûr, parce que finalement, t'as quand même beaucoup de temps encore devant toi si c'est ce que t'aimes faire,
Exactement.
quoi. Donc voilà, une autre question. Qu'est-ce que tu préfères entre attaquer et défendre?
Il y a une époque, j'aurais dit attaquer, et maintenant je dirais les deux, parce que c'est tellement jouissif de neutraliser quelqu'un et de couper son attaque dans son allant en pleine action pour entre guillemets nous piéger, et nous on arrive et on la neutralise et elle peut pas faire ce qu'elle a envie de faire. C'est
Incroyable.
aussi jouissif que de marquer. Donc franchement, je ne pourrais pas répondre. Je
Ok,
sais pas.
très bien. Bah, je trouve que c'est incroyable comme réponse. Merci. Bah, pour finir, je vais te demander si tu as pour moi une suggestion d'un sujet à traiter sur le podcast ou une invitée ou un invité que je pourrais recevoir.
Ça pourrait être la gestion des études avec le sport de haut niveau.
Ouais.
Parce que je trouve ça compliqué.
Ouais, je pense que c'est très
Mais faisable.
compliqué. Non, je pense que c'est faisable, tout à fait. Mais parce que je pense que tu vois déjà, les générations avant nous, c'est des générations à qui on disait arrête tes études. Et par le fait qu'ils ont montré qu'en fait, c'était pas une bonne idée parce qu'après, tu galères, bah, nous, du coup, on a plus ce problème-là de devoir démontrer qu'on en a besoin. Mais je pense qu'on a d'autres problèmes qui sont des problèmes d'organisation, enfin, on a d'autres problèmes maintenant.
Ouais.
Ok.
Après, il y en a, les études, c'est pas forcément leur kiff, mais par exemple, ils peuvent prendre des cours de langue. Parce que dans le hand, ça nous sert énormément.
Ouais.
Et des cours de land où on prend des trucs, par exemple, je sais pas si les agents immobiliers ça intéresse, peut-être des modules, des trucs comme ça. Enfin, au moins ne pas rester sans travailler, entre guillemets, son cerveau.
Ouais.
Moi, je pense que c'est ça qui est important.
Alors merci à toi pour cette belle suggestion qui sera d'ailleurs le sujet de l'épisode de la semaine prochaine. Donc petit spoiler. Ouais, on parlera de la possibilité ou non de concilier des études de haut niveau et du sport de haut niveau et de toute la difficulté que ça entraîne dans la vraie vie de la sportive. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez me faire vos retours à handpaperspodcast@gmail.com ou sur Instagram directement à la page @handpapers. Voilà, moi je retiens beaucoup, encore une fois, d'ambition de la part de Pauletta et je trouve qu'elle est vraiment très inspirante de son très jeune âge. Et finalement, comme disait Océane Sersin il y a peu de temps sur le podcast, je pense que tout le monde peut inspirer. Alors je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Handpapers. Thank you.